Chapitre 10. Ma belle amie, tu avais bien raison de me détourner du projet que j'avais conçu de voir les hommes et de les étudier à fond avant de donner mon cœur à aucun d'eux. J'ai à tout jamais éteint en moi l'amour et jusqu'à la possibilité de l'amour. Pauvre jeune fille que nous sommes, élevée avec tant de soin, si virginalement entourée d'un triple mur de précaution et de réticence, nous, à qui on ne laisse rien entendre, rien soupçonner, et dont la principale science est de ne rien savoir, dans quelles étranges erreurs nous vivons, et quelles perfides chimères nous bercent entre leurs bras. Ah, Graciosa, trois fois maudite soit la minute où m'est venue l'idée de ce travestissement. Que d'horreur, que d'infamie et que de grossièreté dont j'ai été forcé d'être témoin ou auditeur. Quel trésor de chaste et précieuse ignorance j'ai dissipé en peu de temps. C'était par un beau clair de lune, t'en souviens-tu? Nous nous promenions ensemble, tout au fond du jardin, dans cette allée triste et peu fréquentée, terminée d'un côté par une statue de faune jouant de la flûte, qui n'a plus de nez et dont tout le corps est couvert d'une lèpre épaisse de mousse noirâtre, et de l'autre côté, par une perspective feinte dessinée sur le mur et à moitié effacée par la pluie. À travers le feuillage encore rare de la charmille, on voyait par places les étoiles étinceler et s'arrondir la serpe d'argent. Une odeur de jeunes pousses et de plantes nouvelles nous arrivait du parterre avec les souffles languissants d'une petite brise. Un oiseau caché sifflait un air langoureux et bizarre. Et nous, comme de vraies jeunes filles, nous causions d'amour, de galants, de mariage, du beau cavalier que nous avions vu à la messe. Nous mettions en commun le peu de notions du monde et des choses que nous pouvions avoir. Nous retournions de cent manières une phrase que nous avions entendue par hasard et dont la signification nous semblait obscure et singulière. Nous nous faisions mille de ces questions saugrenues que la plus parfaite innocence peut seule imaginer. Que de poésie primitive, que d'adorables sottises dans ces furtifs entretiens de deux petites niaises sorties la veille de pension. Toi, tu voulais pour amant un jeune homme hardi et fier, avec des moustaches et des cheveux noirs, de grands éperons, de grandes plumes, une grande épée, une espèce de matamor amoureux. Et tu donnais en plein dans l'héroïque et le triomphant. Tu ne rêvais que duels et escalades, dévouements miraculeux, et tu aurais volontiers jeté ton gant dans la fosse au lion pour que ton esplendian l'y alla chercher. Cela était fort comique de voir une petite fille comme tu l'étais alors, toute blonde, toute rougissante, ployant au moindre souffle, pour débiter ses généreuses tirades d'une seule haleine et de l'air le plus martial du monde. Moi, quoique jusque 6 mois de plus que toi, j'étais de 6 ans moins romanesque. Une chose m'inquiétait principalement, c'était savoir ce que les hommes se disaient entre eux et ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient sortis des salons et des théâtres. Je pressentais dans leur vie beaucoup de côtés défectueux et obscurs, soigneusement voilés à nos regards, et qu'il nous importait beaucoup de connaître. Quelquefois, caché derrière un rideau, j'épiais de loin les cavaliers qui venaient à la maison, et il me semblait alors démêler dans leur allure quelque chose d'ignoble et de cynique, une insouciance grossière ou une préoccupation farouche que je ne le retrouvais plus dès qu'ils étaient entrés, et qu'ils semblaient dépouiller comme par enchantement sur le seuil de la chambre. Tous les jeunes comme les vieux me paraissait avoir adopté uniformément un masque de convention, des sentiments de convention et un parler de convention lorsqu'ils étaient devant les femmes. De l'angle du salon où je me tenais droite comme une poupée et sans appuyer le dos à mon fauteuil, tout en roulant mon bouquet entre mes doigts, j'écoutais, je regardais. Mes yeux étaient baissés, cependant, et je voyais tout à droite, à gauche, devant et derrière moi. Comme les yeux fabuleux du lynx, Mes yeux perçaient les murailles et j'aurais dit ce qui se passait dans la pièce à côté. Je m'étais aussi aperçu d'une notable différence dans la manière dont on parlait aux femmes mariées. Ce n'étaient plus les phrases discrètes et polies et enjolivées puérilement comme on en adressait à moi ou à mes compagnes. C'était un enjouement plus libre, des façons moins sobres et plus dégagées. Les claires réticences et les détours aboutissant vite d'une corruption qui sait qu'elle a devant elle une corruption semblable. Je sentais bien qu'il y avait entre eux un élément commun qui n'existait pas entre nous. J'aurais tout donné pour savoir quel était cet élément. Avec quelle anxiété, quelle furie curieuse, je suivais de l'œil et de l'oreille les groupes bourdonnants et rieurs de jeunes gens qui, après s'être abattus sur quelques points du cercle, reprenaient leur promenade tout en causant et en jetant au passage des œillades ambiguës. Sur leurs bouches dédaigneusement bouffies, voltigeaient des ricanements incrédules. Ils avaient l'air de se moquer de ce qu'ils venaient de dire et de rétracter les compliments et les adorations dont ils nous avaient comblés. Je n'entendais pas leurs paroles, mais je comprenais au mouvement de leurs lèvres qu'ils prononçaient les mots d'une langue qui m'était inconnue et dont personne ne s'était servi devant moi. Ceux-mêmes qui avaient l'air le plus humble et le plus soumis redressaient la tête avec une nuance très sensible de révolte et d'ennui. Un soupir d'essoufflement, pareil au soupir d'un acteur qui est arrivé au bout d'un long couplet, s'échappait malgré eux de leur poitrine, et ils faisaient en nous quittant un demi-tour sur les talons d'une manière vive et pressée qui dénonçait une espèce de satisfaction intérieure d'être délivrés de la rude corvée d'être honnêtes et galants. J'aurais donné un an de ma vie pour entendre sans être vu une heure de leur conversation. Souvent, je comprenais de certaines attitudes, à quelques gestes détournés, à des coups d'œil lancés obliquement, qu'il était question de moi et que l'on parlait, ou de mon âge, ou de ma figure. Alors j'étais sur des charbons ardents. Les quelques mots étouffés, les demi-lambeaux de phrases qui m'arrivaient par intervalles, irritait au plus haut point ma curiosité sans pouvoir la satisfaire, et j'entrais dans des doutes et des perplexités étranges. Le plus souvent, ce qu'on disait avait une apparence favorable, et ce n'était pas ce qui m'inquiétait. Je me souciais assez peu que l'on me trouvât belle, mais les menues observations coulaient dans le tuyau de l'oreille et presque toujours suivies de longs ricanements et de singuliers clignements d'yeux. Voilà ce que j'aurais voulu savoir. Et pour une de ces phrases dites tout bas derrière un rideau ou dans l'encoignure d'une porte, j'aurais quitté sans regret l'entretien le plus fleuri et le plus parfumé du monde. Si j'avais eu un amant, j'aurais beaucoup aimé connaître la manière dont il eût parlé de moi à un autre homme, et en quels termes il se serait vanté de sa bonne fortune à ses camarades d'orgie, avec un peu de vin dans la tête et les deux coudes sur la nappe. Mais je le sais maintenant, et en vérité, je suis fâché de le savoir. C'est toujours ainsi. Mon idée était folle, mais ce qui est fait, fait, et l'on ne peut désapprendre ce que l'on a appris. Je ne t'ai pas écouté, ma chère Graciosa, je m'en repens. Mais on n'écoute pas toujours la raison, surtout quand elle sort d'une aussi jolie bouche que la tienne. Car je ne sais pourquoi, on ne se peut figurer qu'un conseil soit sage, à moins qu'il ne soit donné par quelque vieille tête toute chenue et toute grise, comme si avoir été bête 60 ans pouvait vous rendre spirituel. Mais tout cela me tourmentait trop, et je n'y pouvais tenir. Je grillais dans ma petite peau comme une châtaigne sur la poêle. La pomme fatale s'arrondissait dans le feuillage au-dessus de ma tête, et il fallait bien finir par y donner un coup de dent, sauf à la jeter après si la saveur m'en paraissait amère. « J'ai fait comme Ève la blonde, ma très chère grand-mère. J'ai mordu. » La mort de mon oncle, le seul parent qui me resta, Me laissant libre de mes actions, j'exécutais tout ce que je rêvais depuis si longtemps. Mes précautions étaient prises avec le plus grand soin pour que nul ne se doutât de mon sexe. J'avais appris à tirer l'épée et le pistolet. Je montais parfaitement à cheval et avec une hardiesse dont peu d'écuyers eussent été capables. J'étudiais bien la manière de porter le manteau et de faire siffler la cravache, et en quelques mois, je parvins à faire d'une fille qu'on trouvait assez jolie un cavalier beaucoup plus joli et à qui il ne manquait guère que la moustache. Je réalisais ce que j'avais de bien et je sortis de la ville décidé à n'y revenir qu'avec l'expérience la plus complète. C'était le seul moyen d'éclairer mes doutes. Avoir des amants ne m'aurait rien appris, ou du moins cela ne m'eût donné que des lueurs incomplètes. Et je voulais étudier l'homme à fond, l'anatomiser fibre par fibre avec un scalpel inexorable et le tenir tout vif et tout palpitant sur ma table de dissection. Pour cela, il fallait le voir seul à seul, chez lui, en déshabillé, le suivre à la promenade, à la taverne et ailleurs. Avec mon déguisement, je pouvais aller partout sans être remarqué. On ne se cachait pas devant moi. On jetait de côté toute réserve et toute contrainte. Je recevais des confidences, et j'en faisais de fausses pour en provoquer de vraies. Hélas, les femmes n'ont lu que le roman de l'homme et jamais son histoire. C'est une chose effrayante à penser, et à laquelle on ne pense pas, combien nous ignorons profondément la vie et la conduite de ceux qui paraissent nous aimer et que nous épouserons. Leur existence réelle nous est aussi parfaitement inconnue que s'ils étaient des habitants de Saturne ou de quelque autre planète à 100 millions de lieues de notre boule sublunaire. On dirait qu'ils sont d'une autre espèce, et il n'y a pas le moindre lien intellectuel entre les deux sexes. Les vertus de l'un font les vices de l'autre, et ce qui fait admirer l'homme fait honnir la femme. Nous autres, notre vie est claire et se peut pénétrer d'un regard. Il est facile de nous suivre de la maison au pensionnat, du pensionnat à la maison. Ce que nous faisons n'est un mystère pour personne. Chacun peut voir nos mauvais dessins à l'estampe, nos bouquets à l'aquarelle, composés d'une pensée et d'une rose grosse comme un chou, également nouée par la queue avec un ruban de couleur tendre. Les pantoufles que nous brodons pour la fête de nos pères ou de nos grands-pères n'ont rien en soi de bien occulte et de bien inquiétant. Nos sonates et nos romances sont exécutées avec la plus désirable froideur. Nous sommes bien et dûment cousus à la jupe de nos mères, et à 9 ou 10 heures au plus, nous rentrons dans nos petits lits tout blancs au fond de nos cellules proprettes et discrètes, où nous sommes vertueusement verrouillés et cadenassés jusqu'au lendemain matin. La susceptibilité la plus éveillée et la plus jalouse ne trouverait rien à cela. Le cristal le plus limpide n'a pas la transparence d'une pareille vie. Celui qui nous prend, c'est ce que nous avons fait à partir de la minute où nous avons été sevrés, et même avant, s'il veut pousser ses recherches jusque-là. Notre vie n'est pas une vie, c'est une espèce de végétation, comme celle de la mousse et des fleurs. L'ombre glaciale de la tige maternelle flotte autour de nous, pauvres boutons de rose étouffés qui n'oseront pas nous couvrir. Notre affaire principale, c'est de nous tenir bien droites, bien corsées, bien busquées, l'œil convenablement baissé, et de surpasser en immobilité et en raideur les mannequins, les poupées à ressort. Il nous est défendu de prendre la parole, de nous mêler à la conversation autrement que pour répondre oui et non, si l'on nous interroge. Aussitôt que l'on veut dire quelque chose d'intéressant, l'on nous renvoie à étudier notre harpe ou notre clavecin, et nos maîtres de musique ont tous 60 ans pour le moins, et prennent horriblement de tabac. Les modèles suspendus dans nos chambres sont d'une anatomie très vague et très esquissée. Les dieux de la Grèce, pour se présenter dans un pensionnat de demoiselles, ont soin préalablement d'acheter à la friperie de très amples carriques et de se faire gaver au pointillé, ce qui leur donne l'air de portier ou de cocher de fiacre, et les rend peu propres à nous enflammer l'imagination. À force de vouloir nous empêcher d'être romanesques, l'on nous rend idiotes. Le temps de notre éducation se passe non pas à nous apprendre quelque chose, mais à nous empêcher d'apprendre quelque chose. Nous sommes réellement prisonnières de corps et d'esprit. Mais un jeune homme, libre de ses actions, qui sort le matin pour ne rentrer que le matin, qui a de l'argent, qui peut en gagner et en disposer comme il lui plaît, comment pourrait-il justifier l'emploi de son temps? Quel est l'homme qui voudrait dire à la personne aimée ce qu'il a fait pendant sa journée et pendant sa nuit? Aucun, même de ceux qui sont réputés les plus purs. J'avais envoyé mon cheval et mes vêtements à une petite métairie que j'ai à quelque distance de la ville. Je m'habillai, je montai en selle et je partis, non sans un singulier serrement de cœur. Je ne regrettais rien, je ne laissais rien en arrière, ni parents, ni amis, pas un chien, pas un chat. Et cependant j'étais triste, j'avais presque des larmes aux yeux. Cette ferme où je n'avais été que 5 ou 6 fois n'avait pour moi rien de particulier, de cher, et ce n'était pas la complaisance que l'on prend à de certains endroits et qui vous attendrit lorsqu'il les faut quitter. Mais je me retournais 2 ou 3 fois pour voir encore de loin monter entre les arbres sa vrille de fumée bleuâtre. C'était là où, avec mes robes et mes jupes, j'avais laissé mon titre de femme. Dans la chambre où j'avais fait ma toilette étaient serrées 20 années de ma vie qui ne devaient plus compter et qui ne me regardaient plus. Sur la porte, on eût pu écrire C.J. Madeleine de Maupin. Car en effet, je n'étais plus Madeleine de Maupin, mais bien Théodore de Sérane. Et personne ne devait plus m'appeler de ce doux nom de Madeleine. Le tiroir où étaient renfermées mes robes, désormais inutiles, me parut comme le cercueil de mes blanches illusions. J'étais un homme, ou du moins j'en avais l'apparence. La jeune fille était morte. Quand j'eus totalement perdu de vue la cime des châtaigniers qui entourent la métairie, il me sembla que je n'étais plus moi, mais un autre, et je me souvenais de mes actions anciennes comme des actions d'une personne étrangère auxquelles j'aurais assisté, ou comme du début d'un roman dont je n'aurais pas achevé la lecture. Je me rappelais complaisamment 1000 petits détails dont l'enfantine naïveté me faisait venir sur les lèvres un sourire d'indulgence un peu moqueuse quelquefois, comme celui d'un jeune libertin qui écouterait les confidences arcadiques et pastorales d'un écolier de 3e. Et au moment où je m'en détachais pour toujours, toutes mes puérilités de petite fille et de jeune fille accouraient sur le bord du chemin en me faisant 1000 signes d'amitié et m'envoyant des baisers du bout de leurs doigts blancs et effilés. Je piquais mon cheval pour me dérober à ces énervantes émotions. Les arbres filaient rapidement à droite et à gauche, mais le symphonâtre, plus bourdonnant qu'une ruche d'abeilles, se mit à courir dans les allées latérales et à m'appeler « Madeleine, Madeleine !» Je donnai sur le cou de ma bête un grand coup de cravache qui la fit redoubler de vitesse. Mes cheveux se tenaient presque droits derrière ma tête. Mon manteau était horizontal, comme si des plis s'étaient sculptés dans la pierre, tant ma course était rapide. Je regardai une fois en arrière et je vis comme un petit nuage blanc, bien loin à l'horizon, la poussière que les pieds de mon cheval avaient soulevée. Je m'arrêtai un peu. Dans un buisson d'églantier sur le bord de la route, je vis remuer quelque chose de blanc, et une petite voix claire et douce comme l'argent me vint frapper l'oreille. « Madeleine, Madeleine, où allez-vous si loin, Madeleine ?»« Je suis votre virginité, ma chère enfant. C'est pourquoi j'ai une robe blanche, une couronne blanche et une peau blanche. Mais vous, pourquoi avez-vous des bottes, Madeleine ?» Il me semblait que vous aviez le pied fort joli. Des bottes et un haut de chausse, et un grand chapeau à plumes, comme un cavalier qui va à la guerre. Pourquoi donc cette longue épée qui bat et meurtrit votre cuisse? Vous avez un singulier équipage, Madeleine, et je ne sais trop si je dois vous accompagner. Si tu as peur, ma chère, retourne à la maison. « Va arroser mes fleurs et soigner mes colombes. »« Mais en vérité, tu as tort. »« Tu serais plus en sûreté sous ces vêtements de bon drap que sous ta gaze et ton lin. »« Mes bottes empêchent qu'on ne voie si j'ai un joli pied. »« Cette épée, c'est pour me défendre. »« Et la plume qui s'agite à mon chapeau et pour effaroucher tous les rossignols qui me viendraient chanter à l'oreille de fausses chansons d'amour. » Je continuai ma route. Dans les soupirs du vent, je crus reconnaître la dernière phrase de la sonate que j'avais apprise pour la fête de mon oncle, et dans une large rose qui levait sa tête épanouie au-dessus d'un petit mur, le modèle de la grosse rose, d'après quoi j'avais fait tant d'aquarelles. En passant devant une maison, je vis flotter à une fenêtre le fantôme de mes rideaux. Tout mon passé semblait se cramponner après moi pour m'empêcher d'aller en avant et d'arriver à un nouvel avenir. J'hésitais deux ou trois fois, et je tournais la tête de mon cheval de l'autre côté. Mais la petite couleuvre bleue de la curiosité me sifflait tout doucement des paroles insigneuses et me disait « Marche, marche, Théodore !» L'occasion est bonne pour t'instruire. Si tu n'apprends pas aujourd'hui, tu ne sauras jamais. Et ton noble cœur, tu ne le donneras donc au hasard la première apparence honnête et passionnée. Les hommes nous cachent des secrets bien extraordinaires, Théodore. Je repris le galop. Le haut de chausse était bien sur mon corps et non dans mon esprit. J'éprouvais un certain malaise et comme un frisson de peur, pour nommer la chose par son nom, un endroit sombre de la forêt. Un coup de fusil tiré par un braconnier manqua me faire évanouir. Si c'eût été un voleur, les pistolets placés dans mes fontes et ma formidable épée ne m'eussent pas été à coup sûr d'un grand secours. Mais peu à peu, je m'aguerris et je n'y fis plus attention. Le soleil descendait lentement sous l'horizon comme le lustre d'un théâtre qu'on abaisse quand la représentation est finie. Des lapins et des faisans traversaient la route de temps à autre. Les ombres s'allongeaient et tous les lointains se nuançaient de rougeur. Certaines portions du ciel étaient d'un lilas très doux et très fondu, d'autres tenaient du citron et de l'orange. Les oiseaux de nuit commençaient à chanter, et il se dégageait du bois une foule de bruits singuliers. Le peu de lumière qu'il y avait encore s'éteignit, et l'obscurité devint complète, augmentée qu'elle était par l'ombre portée des arbres. Moi, qui n'étais jamais sorti seul de nuit, me trouvai à 8 heures du soir, dans une grande forêt. Conçois-tu cela, ma Graciosa, moi qui me bourrais déjà de peur au bout du jardin? L'effroi me reprit de plus belle, et le cœur me battit terriblement. Ce fut, je l'avoue, avec une grande satisfaction que je vis poindre et scintiller au revers d'un coteau les lumières de la ville où j'allais. Dès que je vis ces points brillants, semblables à de petites étoiles terrestres, ma frayeur se passa complètement. Il me semblait que ces lueurs indifférentes étaient les yeux ouverts d'autant d'amis qui veillaient sur moi. Mon cheval n'était pas moins content que moi, et humant un doux parfum d'écurie, plus agréable pour lui que toutes les odeurs des marguerites et des fraises des bois, il courut tout droit à l'hôtel du Lion Rouge. Une blonde lueur rayonnait à travers le vitrage de plomb de l'auberge, dont l'enseigne de fer blanc se balançait à droite et à gauche et geignait comme une vieille femme, car la bise commençait à fraîchir. Je remis mon cheval au malin palefrenier et j'entrai dans la cuisine. Une énorme cheminée, ouvrant au fond sa gueule rouge et noire, avalait un fagot à chaque bouchée, et de chaque côté des chenets, deux chiens, assis sur leur derrière et presque aussi grands que des hommes, se faisaient cuire avec le plus grand flegme du monde, se contentant de lever un peu leurs pattes et de pousser une espèce de soupir quand la chaleur devenait plus intense. Mais à coup sûr, ils eussent mieux aimé être réduits en charbon que de reculer d'un pas. Mon arrivée ne parut pas leur faire plaisir, et ce fut en vain que, pour faire connaissance avec eux, je leur passai à plusieurs reprises la main sur la tête. Ils me jetaient des regards en dessous qui ne signifiaient rien de bon. Cela m'étonna, car les animaux viennent à moi volontiers. L'hôtelier s'approcha pour me demander ce que je voulais à souper. C'était un homme pansu, avec un nez rouge, les yeux verrons et un sourire qui lui faisait le tour de la tête. À chaque mot qu'il disait, il montrait une double rangée de dents pointues et séparées comme celles des ogres. Le grand couteau de cuisine qui pendait à son côté avait un air douteux et semblait pouvoir servir à plusieurs usages. Quand je lui eus dit ce que je désirais, il alla à un des chiens et lui donna un coup de pied quelque part. Le chien se leva et se dirigea vers une espèce de roue où il entra avec un air piteux et rechigné et en me lançant un regard de reproche. Enfin, voyant qu'il n'y avait pas de grâce à espérer, il se mit à faire tourner sa roue et par contre-coup la broche où était enfilé le poulet dont je devais souper. Je me promis de lui en jeter les reliefs pour le payer de sa peine, et je me mis à considérer la cuisine en attendant qu'il fût prêt. De larges solives de chêne rayaient le plafond, toutes bistrées et noircies par la fumée du foyer et des chandelles. Sur les dressoirs brillaient dans l'ombre des plats d'étain plus clairs que l'argent et des poteries de faïence blanches à bouquets bleus. Au fond des murs, de nombreuses files de casseroles bien récurées ne ressemblaient pas mal aux boucliers antiques que l'on voit suspendus en rang au long des trirèmes grecques ou romaines. Pardonne-moi, Graciosa, la magnificence épique de cette comparaison. Une ou deux grosses servantes s'agitaient autour d'une grande table et remuaient de la vaisselle et des fourchettes. Plus agréable musique que tout autre quand on a faim, car l'ouïe du ventre devient alors plus fine que celle de l'oreille. Somme toute, en dépit de la bouche de tirelire et des dents de scie de l'hôtelier, l'auberge avait une mine assez honnête et réjouissante. Et le sourire de l'hôtelier eût-il eu une toise de plus, et ses dents eussent-elles été trois fois plus longues et plus branches, la pluie commençait à teinter sur les carreaux, et le vent a hurlé de façon à vous ôter l'envie de vous en aller, car je ne sais rien qui soit plus lugubre que ces gémissements par une nuit obscure et pluvieuse. Une idée me vint qui me fit sourire, c'est que personne au monde ne serait venu me chercher où j'étais. En effet, qui eût pensé que la petite Madeleine, au lieu d'être couchée dans son lit bien chaud, avec sa veilleuse d'albâtre à côté d'elle, un roman sous son oreiller, sa femme de chambre dans le cabinet voisin, prête à accourir à la moindre terreur nocturne, se balançait sur une chaise de paille, dans une auberge de campagne à 20 lieues de sa maison, ses pieds bottés posés sur les chenets et ses petites mains crânement enfoncées dans ses goussets. Oui, Madelinette n'est pas restée, comme ses compagnes, le coude paresseusement appuyé au bord du balcon, entre le volubilis et les jasmins de la fenêtre, suivre au bout de la plaine les franges violettes de l'horizon ou quelques petits nuages couleur de rose arrondis par la brise de mai. Elle n'a pas tapissé avec la feuille des lys des palais de nacre, de perles, pour y loger ses chimères. Elle n'a pas, comme vous, les belles rêveuses, habillé quelques fantômes creux de toutes les perfections imaginables. Elle a voulu connaître les hommes avant de se donner à un homme. Elle a tout quitté, ses belles robes de velours et de soie aux couleurs éclatantes, ses colliers, ses bracelets, ses oiseaux et ses fleurs. Elle a renoncé volontairement aux adorations, aux galanteries prosternées, aux bouquets et aux madrigaux, au plaisir d'être trouvée plus belle et mieux parée que vous, à son doux nom de femme, à tout ce qui fut elle. Et elle s'en est allée, la courageuse fille, toute seule, apprendre à travers le monde la grande science de la vie. Si l'on savait cela, on dirait que Madeleine est folle. Tu l'as dit toi-même, ma chère Graciosa. Mais les véritables folles sont celles qui jettent leur âme au vent et sèment leur amour au hasard sur la pierre et le rocher sans savoir si un seul épi germera. Oh, Graciosa, c'est une pensée que je n'ai jamais eue sans terreur, avoir aimé quelqu'un qui n'en était pas digne, avoir montré son âme toute nue à des yeux impurs et laisser pénétrer un profane dans le sanctuaire de son cœur, avoir roulé quelque temps ses flots limpides avec une onde bourbeuse. Si parfaitement qu'on en se soit séparé, il reste toujours quelque chose de ce limon, et le ruisseau ne peut reprendre sa transparence première. Pensez qu'un homme vous a embrassé et touché, qu'il a vu votre corps, qu'il peut dire « elle est comme ceci ou comme cela, elle a tel signe à tel endroit, elle a telle nuance dans l'âme, elle rit pour cette chose et pleure pour celle-ci, son rêve est ainsi fait, voici dans mon portefeuille une plume des ailes de sa chimère, cette bague est tressée avec ses cheveux, un morceau de son cœur est plié dans cette lettre, ah, elle me caressait de cette façon » Et voici son mot de tendresse habituel. Ah, Cléopâtre, je comprends maintenant pourquoi tu faisais tuer le matin l'amant avec qui tu avais passé la nuit. Sublime cruauté pour qui autrefois je n'avais pas assez d'imprécation. Grande voluptueuse, comme tu connaissais la nature humaine et qu'il y a de profondeur dans cette barbarie, tu ne voulais pas que nul vivant pût divulguer les mystères de ta couche. Ces mots d'amour envolés de tes lèvres ne devaient pas être répétés. Tu gardais ainsi ta pure illusion. L'expérience ne venait pas dépouiller pièce à pièce ce fantôme charmant que tu avais versé entre tes bras. Tu aimais mieux être séparé de lui par un brusque coup de hache que par un lent dégoût. Quel supplice, en effet, de voir l'homme que l'on avait choisi mentir à chaque minute à l'idée qu'on s'était faite de lui, de découvrir dans son caractère mille petitesses qu'on n'y soupçonnait pas, de s'apercevoir que ce qui nous avait paru si beau à travers le prisme de l'amour est réellement fort laid, et que ce qu'on avait pris pour un vrai héros de roman n'est au bout du compte qu'un bourgeois prosaïque qui met des pantoufles et une robe de chambre. Je n'ai pas le pouvoir de Cléopâtre, et si je le possédais, je n'aurais pas assurément la force de m'en servir. Aussi, ne pouvant ni ne voulant faire couper la tête à mes amants au sortir de mon lit, et n'étant pas non plus d'humeur à supporter ce que les autres femmes supportent, il faut que j'y regarde à deux fois avant d'en prendre un. C'est ce que je ferais plutôt trois fois que deux, si l'envie m'en prend, ce dont je doute fort après ce que j'ai vu et entendu. À moins, cependant, que je le rencontre dans quelque bienheureuse contrée inconnue, un cœur pareil au mien, comme disent les romans, un cœur vierge et pur, qui n'eût jamais aimé et qui en fut capable dans le vrai sens du mot, ce qui n'est pas, à beaucoup près, une chose facile. Plusieurs cavaliers entrèrent dans l'auberge. L'orage et la nuit les avaient empêchés de continuer leur route. Ils étaient tous jeunes et le plus âgé n'avait assurément pas plus de 30 ans. Leurs vêtements annonçaient qu'ils appartenaient à la classe supérieure et, à défaut de leurs vêtements, la facilité insolente de leur manière lui fait assez comprendre. Il y en avait un ou deux qui avaient des figures intéressantes. Les autres avaient tous, à un degré plus ou moins fort, cette espèce de jovialité brutale et d'insouciante bonhomie que les hommes ont entre eux et dont ils se dépouillent complètement lorsqu'ils sont en notre présence. S'ils avaient pu se douter que ce jeune homme, frêle et à moitié endormi sur sa chaise à l'angle de la cheminée, n'était rien moins que ce qu'il paraissait être, mais bien une jeune fille, un morceau de roi, comme ils disent, certes, ils eussent bien vite changé de ton, vous les auriez vus aussitôt se rengorger et faire la roue. Ils se seraient approchés avec force révérence, les jambes cambrées, les coudes en dehors, le sourire dans les yeux et dans la bouche, dans le nez, dans les cheveux, dans toute l'habitude de leur corps. Ils auraient désossé les mots dont ils se seraient servis et n'auraient parlé qu'avec des phrases de velours et de satin. Au moindre de mes mouvements, ils auraient eu l'air de s'étendre sur le plancher en manière de tapis, de peur que la délicatesse de mes pieds ne fût offensée par ces inégalités. Toutes les mains se fussent avancées pour me soutenir, le siège le plus moelleux eût été disposé à la meilleure place. Mais j'avais l'air d'un joli garçon et non d'une jolie fille. J'avoue que je fus presque sur le point de regretter mes jupes, en voyant le peu d'attention qu'il faisait à moi. J'en fus une minute toute mortifiée, car de temps en temps il m'arrivait de ne plus songer que j'avais des habits d'homme, et j'eus besoin d'y penser pour ne pas prendre de mauvaise humeur. J'étais là, ne disant mot, les bras croisés, et regardant avec un air en apparence fort attentif le poulet qui se nuançait de teintes de plus en plus vermeilles, et le malheureux chien que j'avais si malencontreusement dérangé et qui se démenait dans sa roue comme plusieurs diables dans le même bénitier. Le plus jeune de la troupe me vint frapper sur l'épaule un coup qui, ma foi, me fit beaucoup de mal et m'arracha un petit cri involontaire. Et il me demanda s'il n'aimerait pas mieux souper avec eux que tout seul, attendu qu'on buvait mieux étant plusieurs. Mais on lui répondit que c'était un plaisir que je n'aurais pas osé espérer et que je le ferais très volontiers. On mit notre couvert ensemble et nous prîmes place à table. Le chien toua le temps après avoir râpé en 3 tours de langue une énorme écuelle d'eau. Reprit son poste vis-à-vis de l'autre chien, qui n'avait pas bougé non plus que s'il eût été de porcelaine, les nouveaux venus n'ayant pas demandé le poulet par une grâce du ciel toute spéciale. J'appris par quelques phrases qui leur échappèrent qu'ils se rendaient à la cour, qui était alors à 3 étoiles, et où ils devaient rejoindre d'autres de leurs amis. Je leur dis que j'étais un jeune fils de famille qui sortait de l'université et qui se rendait chez les parents qui l'avaient en province par le vrai chemin des écoliers, c'est-à-dire par le plus long qu'il put trouver. Cela les fit rire, et après quelques propos sur mon air innocent et candide, ils me demandèrent si j'avais une maîtresse. Je leur répondis que je n'en savais rien. Et eux de rire encore plus. Les flacons se succédaient avec rapidité. Quoique j'eusse loin de laisser mon verre presque toujours plein, j'avais la tête un peu échauffée, et ne perde pas de vue mon idée, je fis en sorte que la conversation tourna sur les femmes. Ce ne fut pas difficile, car c'est, après la théologie et l'esthétique, la chose dont les hommes parlent le plus volontiers quand ils sont ivres. Les compagnons n'étaient pas précisément ivres, ils portaient trop bien leur vin pour cela, mais ils commençaient à entrer dans des discussions morales à perte de vue et à mettre sans façon leurs coudes sur la table. L'un d'eux même avait passé son bras autour de la taille épaisse d'une des servantes et dodelinait sa tête fort amoureusement. Un autre jura qu'il crèverait sur l'heure comme un crapaud à qui l'on faisait prendre du tabac, si Jeannette ne lui laissait pas prendre un baiser sur chacune des grosses pommes rouges qui lui servaient de joue. Et Jeannette, ne voulant pas qu'il crevât comme un crapaud, les lui octroya de très bonne grâce et n'arrêta pas même une main qui s'insinuait audacieusement entre les plis de son fichu dans la moite vallée de sa gorge très mal gardée par une petite croix d'or, et ce ne fut qu'après un court pourparler à voix basse qu'il la laissa libre d'enlever le plat. C'étaient pourtant des gens de la cour et de mœurs élégantes, et assurément, à moins de l'avoir vu, je n'aurais jamais pensé à les accuser de pareille familiarité avec des servantes d'auberge. Il est probable qu'ils venaient de quitter des maîtresses charmantes à qui ils avaient fait les plus beaux serments du monde. En vérité, je n'aurais jamais songé à recommander à mon amant de ne pas salir au long des joues de Marie Thorne des lèvres où j'aurais posé les miennes. Le drôle parut prendre un grand plaisir à se baiser, ni plus ni moins que s'il eût embrassé Phyllis ou Oriane. C'était un gros baiser, solidement et franchement appliqué, qui laissa deux petites marques blanches sur la joue en feu de la donzelle, et dont elle essuya la trace avec le revers de sa main qui venait de laver la vaisselle. Je ne crois pas qu'il n'en eût jamais donné d'aussi naturellement tendre à la pure déité de son cœur. Ce fut apparemment sa pensée, car il dit à mi-voix et avec un mouvement de coude tout à fait dédaigneux « Oh, diable, les femmes maigres et les grands sentiments !» Cette morale parut du goût de l'assemblée, et Touche hochèrent la tête en signe d'assentiment. « Ma foi, dit l'autre en continuant son idée, j'ai du malheur en tout. Messieurs, il faut que je vous confie, sous le sceau du plus grand secret, que moi qui vous parle, j'ai en ce moment-ci une passion. Oh, « Oh, firent les autres, une passion? Cela est du dernier lugubre, et que fais-tu d'une passion ?»« Ah, c'est une femme honnête, messieurs, il ne faut pas rire, messieurs. » « Car enfin, pourquoi n'aurais-je pas une femme honnête? Est-ce que j'ai dit quelque chose de ridicule? Oh, tiens, toi là-bas, je vais te jeter la maison à la tête si cela ne te file pas. Et bien après, oh, elle est folle de moi. C'est bien la plus belle âme du monde. En fait d'homme, je m'y connais aussi bien qu'en chevaux pour le moins. Et je vous garantis que celle-là est une âme première qualité. » Ce sont des élévations, des extases, des dévouements, des sacrifices, des raffinements de tendresse, tout ce que l'on peut imaginer de plus transcendant. Mais elle n'a presque pas de gorge, elle n'en a même pas du tout, comme une petite fille de 15 ans au plus. Elle, c'est jolie du reste, sa main est fine et son pied petit. Elle a trop d'esprit et pas assez de chair. Et il me prend des envies de la planter là. Que diable, on ne couche pas avec les esprits. Je suis bien malheureux, les plaignez-moi, mes chers amis. » Et attendri par le vin qu'il avait bu, il se mit à pleurer à chaudes larmes. Jeannette te consolera du malheur de coucher avec des sylphides, lui dit son voisin en lui versant une rasade. Son âme est tellement épaisse qu'on en pourrait bien faire des corps pour les autres. Elle a assez de chair pour habiller la carcasse de 3 éléphants. Oh, pure et noble femme, si tu savais ce que dit de toi dans un cabaret à tout hasard, devant des personnes qu'il ne connaît pas, l'homme que tu aimes le mieux au monde et à qui tu as tout sacrifié. Comme il te déshabille sans pudeur et te livre effrontément toute nue au regard aviné de ses camarades, pendant que tu es là, triste, le menton dans la main, l'œil tourné vers le chemin par où il doit revenir. Si quelqu'un était venu te dire que ton amant, 24 heures peut-être après t'avoir quitté, courtisait une ignoble servante et qu'il s'était arrangé pour passer la nuit avec elle, tu aurais soutenu que cela n'était pas possible, et tu n'aurais pas voulu le croire. À peine aurais-tu ajouté foi à tes yeux et à tes oreilles. Cela était pourtant. Dans la conversation, dura encore quelque temps, la plus folle et la plus dévergondée du monde, mais à travers toutes les exagérations bouffonnes, les plaisanteries souvent ordurières, perçait un sentiment vrai, profond, de parfait mépris pour la femme, et j'en appris plus dans cette soirée qu'en lisant 20 chartes de moralistes. Les choses énormes, inouïes que j'entendais donnaient à ma figure une teinte de tristesse et de sévérité dont le reste des convives s'aperçut et dont on me fit obligeamment la guerre. Mais ma gaieté ne put revenir. J'avais bien soupçonné que les hommes n'étaient pas tels qu'ils apparaissaient devant nous, mais je ne les croyais pas encore aussi différents de leurs masques, et ma surprise égalait mon dégoût. Je ne voudrais, pour corriger à tout jamais une jeune fille romanesque, qu'une demi-heure d'une pareille conversation. Cela lui vaudrait bien mieux que toutes les remontrances maternelles. Les uns se vantaient d'avoir autant de femmes qui leur plaisaient, et que pour cela ils n'avaient qu'un mot à dire. Les autres se communiquaient des recettes pour se procurer des maîtresses, ou discernaient sur la tactique à suivre dans le siège d'une vertu. Quelques-uns tournaient en ridicule les femmes dont ils étaient les amants, et se proclamaient les plus francs imbéciles de la terre de s'être ainsi acoquinés auprès de semblables guenilles. Oh, tous faisaient très très bon marché de l'amour. Voilà donc la pensée qu'il nous cache sous tant de beaux semblants. Qui le dirait jamais à les voir si humbles, si rampants, si prêts à tout? Ah, qu'après la victoire, ils relèvent la tête hardiment et mettent insolemment le talon de leurs bottes sur le front qu'ils adoraient de loin et à genoux. Comme ils se vengent de leur abaissement passager! Comme ils font chèrement payer leur politesse, et par combien d'injures ils se reposent des madrigaux qu'ils ont faits. Quelle brutalité forcenée de langage et de pensée, quelle inélégance de manière et de tenue. C'est un changement complet, et qui n'est certes pas leur avantage. Si loin qu'eussent été mes prévisions, elles étaient bien au-dessous de la réalité. Idéal, fleur bleue au cœur d'or qui t'épanouit tout emperlée de rosée sous le ciel du printemps, au souffle parfumé des molles rêveries, et dont les racines fibreuses, 1000 fois plus déliées que les tresses de soie des fées, plongent au profond de notre âme avec leurs 1000 têtes chevelues pour en boire la plus pure substance. Fleur si douce et si amère, on ne te peut arracher sans faire saigner le cœur à tous ses recoins, et de la tige brisée suintent des gouttes rouges qui, tombant une à une dans le lac de nos larmes, nous servent à mesurer les heures boiteuses de notre vie mortuaire près du lit de l'amour agonisant. Ah, fleur maudite, comme tu avais poussé dans mon âme! Tes rameaux s'y étaient plus multipliés que les orties dans une ruine. Les jeunes rossignols venaient boire à ton calice et chanter sous ton ombre. Des papillons de diamants avec des ailes d'émeraude et des yeux de rubis voltigeaient et dansaient autour de tes frêles pistils couverts de poudre d'or. Des essaims de blondes abeilles suçaient sans défiance ton miel empoisonné. Les chimères reployaient leurs ailes de cygne et croisaient leurs griffes de lion sous leurs belles gorges pour se reposer auprès de toi. L'arbre des Hespérides n'était pas mieux gardé. Les sylphides recueillaient les larves des étoiles dans les urnes des lys et arrosaient chaque nuit avec leurs magnifiques et magiques arrosoirs. Plante de l'idéal, plus venimeuse que le mancelinier ou l'arbre huppa, qu'il m'en coûte, malgré les fleurs trompeuses et le poison que l'on respire avec ton parfum, pour te déraciner de mon âme. Ni le cèdre du Liban, ni le baobab gigantesque, ni le palmier haut de 100 coudées n'y pourraient remplir ensemble la place que tu y occupais toute seule. Petite fleur bleue au cœur d'or. Le souper se termina enfin, et il fut question de s'aller coucher. Mais comme le nombre des coucheurs était double de celui des lits, il s'ensuivit naturellement qu'il fallait se coucher les uns après les autres, ou coucher deux ensemble. La chose était fort simple pour le reste de la compagnie, mais elle n'était pas beaucoup près autant pour moi, eu égard à certaines protubérances que la soubre-veste et le pourpoint dissimulaient assez convenablement, mais qu'une simple chemise eût laissé voir dans toute leur damnable rondeur. Et certes, je n'étais guère disposé à trahir mon incognito en faveur d'aucun de ces messieurs qui, en ce moment-là, me paraissaient de vrais et naïfs monstres et que depuis j'ai reconnus pour de fort bons diables et valant au moins autant que tous ceux de leur espèce. Celui dont je devais partager le lit était raisonnablement ivre. Il se jeta sur les matelas, une jambe et un bras pendant à terre, et s'endormit sur le champ, non pas du sommeil des justes, mais d'un sommeil si profond que l'ange du jugement dernier s'en fut venu lui souffler à l'oreille avec son clairon qu'il ne se serait pas éveillé pour cela. Ce sommeil simplifiait de beaucoup la difficulté. Je notais que mon pourpoint et mes bottes, j'enjambais le corps du dormeur et je m'étendis sur les draps du côté de la ruelle. J'étais donc couché avec un homme. Oh, cela n'était pas mal débuté. J'avoue que malgré toute mon assurance, j'étais singulièrement ému et troublé. La situation était si étrange et si nouvelle que je pouvais à peine admettre que ce fût pas un rêve. L'autre donnait de son mieux, moi je ne pus fermer l'œil de la nuit. C'était un jeune homme de 24 ans à peu près, d'une assez belle figure, les cils noirs et la moustache presque blonde. Ses longs cheveux roulaient autour de sa tête comme des flots de lurne renversés d'un fleuve. Une légère rougeur passait sous ses joues pâles comme un nuage sous l'eau. Ses lèvres étaient à demi entr'ouvertes et souriaient d'un sourire vague et languissant. Je me soulevai sur mon coude et je restai longtemps à le regarder à la vacillante lueur d'une chandelle dont presque tout le suif avait coulé par large nappe et dont la mèche était toute chargée de noirs champignons. Un intervalle assez grand nous séparait. Il occupait un bord extrême du lit. Moi, je m'étais jeté, par surcroît de précaution, tout à fait à l'autre bord. Assurément, ce que j'avais entendu n'était pas de nature à me prédisposer à la tendresse et à la volupté. J'avais les hommes en horreur. Cependant, j'étais plus inquiète et plus agitée que je n'aurais dû l'être. Mon corps ne partageait pas la répugnance de mon esprit autant qu'il l'aurait fallu. Mon cœur battait fort, j'avais chaud, et de quelque côté que je me tournasse, je ne pouvais trouver le repos. Le silence le plus profond régnait dans l'auberge. On entendait seulement de loin en loin le bruit sourd que faisait le pied de quelque cheval en frappant le pavé de l'écurie, ou le son d'une goutte d'eau qui tombait sur la cendre par le tuyau de la cheminée. La chandelle arrivée au bout de la mèche s'éteignit en fumant. Les ténèbres les plus épaisses s'abaissèrent entre nous deux comme des rideaux. Tu ne peux t'imaginer l'effet que fit sur moi la disparition subite de la lumière. Il me sembla que tout était fini et que je ne devais plus y voir clair de ma vie. J'eus envie un instant de me lever, mais qu'aurais-je fait? Il n'était que 2 heures du matin, toutes les lumières étaient éteintes, et je ne pouvais errer comme un fantôme dans une maison inconnue. Force me fut de rester en place et d'attendre le jour. J'étais là, sur le dos, les deux mains croisées, tâchant de penser à quelque chose, et retombant toujours sur ceci, à savoir que j'étais couché avec un homme. J'allais jusqu'à désirer qu'il s'éveillât, s'aperçût que j'étais une femme. Sans doute le vin que j'avais bu, quoique en petite quantité, était pour quelque chose dans cette idée extravagante, mais je ne pouvais m'empêcher d'y revenir. Je fus sur le point d'allonger la main de son côté, de l'éveiller et de lui dire ce que j'étais. Un pli de la couverture qui m'arrêta, le bras, fut la cause qui m'empêcha de pousser la chose jusqu'au bout. Cela me donna le temps de la réflexion, et pendant que je dégageais mon bras, le sens que j'avais totalement perdu me revint, sinon entièrement, du moins assez pour me contenir. N'eût-il pas été fort curieux qu'une belle dédaigneuse comme je l'étais, que moi, qui aurais voulu connaître 10 ans de la vie d'un homme avant de lui donner ma main à baiser, je me fusse livré dans une auberge sur un grabat au premier venu. Et ma foi, cela n'a pas tenu à grand-chose. Une effervescence subite, un bouillon de sang, peut-il à ce point mater les résolutions les plus superbes ? Et la voix du corps parle-t-elle plus haut que la voix de l'esprit ? Toutes les fois que mon orgueil envoie trop de bouffées vers le ciel pour le ramener à terre, je lui mets le souvenir de cette nuit devant les yeux. Je commence à être de la vie des hommes. Quelle pauvre chose que la vertu des femmes ! Et de quoi dépend-elle, mon Dieu ? Ah, c'est en vain que l'on veut déployer des ailes, trop de limon les charge. Le corps est une ancre qui retient l'âme à la terre. Elle a beau ouvrir ses voiles au vent des plus hautes idées, le vaisseau reste immobile, comme si tous les rémoras de l'océan se fussent suspendus à sa quille. La nature se plaît à nous faire de ces sarcasmes-là. Quand elle voit une pensée debout sur son orgueil comme sur une haute colonne, toucher presque le ciel de la tête, elle dit tout bas à la liqueur rouge de hâter le pas et de se presser à la porte des artères. Elle commande aux tempes de siffler aux oreilles de Tinté, et voilà que le vertige prend à l'idéal tiers. Toutes les images se confondent et se brouillent, la terre semble onduler comme le pont d'une marque dans la tempête, le ciel tourne en rond, les étoiles dansent la sarabande. Ses lèvres qui ne débitaient que maximes austères se plissent et s'avancent comme pour des baisers. Ses bras, si fermes à repousser, s'amollissent et se font plus souples et plus enlaçants que des écharpes. Ajoutez à cela le contact d'un épiderme, le souffle d'une haleine à travers vos cheveux, et tout est perdu. Souvent même, il ne faut pas tant. Une odeur de feuillage qui vous arrive des champs par votre fenêtre ouverte, la vue de 2 oiseaux qui se becquettent, une marguerite qui s'épanouit, une ancienne chanson d'amour qui vous revient malgré vous et que vous répétez sans en comprendre le sens, un vent tiède qui vous trouble et vous enivre, la mollesse de votre lit ou de votre divan, il suffit d'une de ces circonstances. La solitude même de votre chambre vous fait penser que l'on y serait bien deux et que l'on ne saurait trouver un nid plus charmant pour une couvée de plaisir. Ces rideaux tirés, ce demi-jour, ce silence, tout vous ramène à l'idée fatale qui vous effleure de ces perfides ailes de colombe et qui roucoule tout doucement autour de vous. Les tissus qui vous touchent semblent vous caresser et collent amoureusement leurs plis au long de votre corps. Alors la jeune fille ouvre ses bras au premier laquais avec qui elle se trouve seule. Le philosophe laisse sa page inachevée et la tête dans son manteau, courant toute hâte chez la plus voisine courtisane. Je n'aimais certainement pas l'homme qui me causait des agitations si étranges. Il n'avait d'autre charme que de ne pas être une femme, et dans l'état où je me trouvais, c'était assez. Un homme, cette chose si mystérieuse qu'on nous dérobe avec tant de soin, cet animal étrange dont nous savons si peu l'histoire, ce démon ou ce dieu qui peut seul réaliser tous les rêves de volupté indécise dont le printemps berce notre sommeil, la seule pensée que l'on ait depuis l'âge de 15 ans. Un homme. L'idée confuse du plaisir flottait dans ma tête alourdie. Le peu que j'en savais allumait encore mon désir. Une ardente curiosité me poussait d'éclaircir une bonne fois les doutes qui m'embarrassaient et se représentaient sans cesse à mon esprit. La solution du problème était derrière la page. Il n'y avait qu'à la tourner, le livre était à côté de moi. Un chevalier assez beau, un lit assez étroit, une nuit assez noire, une jeune fille avec quelques verres de vin de champagne dans le cerveau. Quel assemblage suspect! Eh bien, de tout cela, il n'est résulté qu'un très honnête néant. Sur le mur où je tenais les yeux fixés, à la faveur d'une obscurité moins épaisse, je commençais à distinguer la place de la croisée. Les carreaux devenaient moins opaques et la lueur grise du matin qui glissait derrière leur rendait la transparence. Le ciel s'éclaira peu à peu. Il était jour. Tu ne peux t'imaginer quel plaisir me fit ce pâle rayon sur la teinture verte de serge d'aumale qui entourait le glorieux champ de bataille où ma vertu avait triomphé de mes désirs. Il me sembla que c'était ma couronne de victoire. Quant au compagnon, il était tout à fait tombé par terre. Je me levai, je me rajustai au plus vite et je courus à la fenêtre. Je l'ouvris, la brise matinale me fit du bien. Pour me peigner, je me mis devant le miroir et je fus étonné de la pâleur de ma figure que je croyais pourpre. Les autres entrèrent pour voir si nous étions encore endormis et poussèrent du pied leur ami qui ne parut pas très surpris de se trouver où il était. On sella les chevaux et nous nous remîmes en route. Mais en voici assez pour aujourd'hui, ma plume ne marque plus et je n'ai pas envie de la tailler. Je te dirai une autre fois le reste de mes aventures. En attendant, aime-moi comme je t'aime. Graciosa la bien nommée, et d'après ce que je viens de te conter, ne va pas avoir une trop mauvaise opinion de ma vertu.